Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Bonjour Turbine, émission en direct sur Station B depuis le Media Lab du WIP et en différé sur Radio Pulse. Vous pouvez également nous retrouver en podcast sur l'audioblog d'Arte ainsi que sur Deezer et Spotify. Peut-être est-ce d'ailleurs de là que vous nous écoutez. En co-animation avec moi, j'ai Oxane. Salut Oxane.
Salut Marion.
Et en chroniqueur aujourd'hui, nous avons David, Lafken, Alain et Thomas à la technique. Comment ça va ?
Salut. Très bien, très bien.
Super.
Bah, aujourd'hui, on va parler de harcèlement scolaire. Alors, parce qu'une définition simple et concise ne fait jamais de mal, les trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire sont la violence, la répétitivité et l'isolement de la personne harcelée. En d'autres termes, lorsqu'un enfant ou un adolescent est insulté, humilié, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on peut parler de harcèlement. Enfin, on en parle. Quand j'étais enfant dans les années 90, j'entendais pas beaucoup parler de harcèlement scolaire. Un peu comme si ce mot était réservé au monde des adultes. On disait...
Il s'est encore fait embêter à la cantine.
Où on conseillait...
Prends un livre et va lire tranquillement au fond de la cour.
Quand j'étais enfant, j'ai cru que les adultes pensaient que le harcèlement scolaire se limitait à l'école. Entre les murs symboliques de l'institution scolaire. En salle de classe, dans les couloirs, en cours de sport, à la piscine. Il pouvait en réalité se poursuivre bien au-delà, quand on se croisait dans la rue, sur le city-stade auquel on n'osait pas trop se pointer. Dans la résidence, quand on passait de la construction d'une cabane à des bagarres et courses-poursuites effrénées. Ces dernières années, le mésusage des réseaux sociaux braque la porte d'entrée et permet au harcèlement de faire effraction jusque dans le salon. Mais ce serait se mentir que de penser que ce rapport de force et de domination n'est que le fait des enfants. Un enfant ne naît pas agresseur, il apprend à le devenir, sans pour autant être condamné à le rester. Aujourd'hui, peut-être grâce à cette effraction, les langues se délient, des prises de conscience s'opèrent et des initiatives se mettent en place. Et c'est justement de ces actions profondément éducatives dont nous parlerons ensemble aujourd'hui. Avant d'accueillir nos invités, David, il me semble que tu souhaites nous présenter une jeune fille.
Eh oui, bonjour Oxane, bonjour Marion, bonjour à tout le monde, à nos invités et à nos auditeurs et à mes amis chroniqueurs aussi. Et donc, effectivement, lors de la préparation de l'émission sur le harcèlement scolaire, je suis tombé sur un article du 12 avril en dernière page du quotidien régional Ouest-France qui relate le parcours de Keïna, une lycéenne bretonne de Paimpol. Alors cette jeune élève, victime de harcèlement, a décidé de réagir en prenant les choses en main. Je cite la lycéenne. « Un jour, mon conseiller principal d'éducation a tenu un discours qui m'a touché. Il a expliqué que si personne n'essayait de changer les choses, ce sont les autres qui allaient décider à ma place. » À partir de ce moment-là, Keïna décide de réagir en s'engageant au Conseil des délégués pour la vie lycéenne de Bretagne et fin 2022 à son équivalent national. Concrètement, elle tente de lutter contre les inégalités et les discriminations. Pour moi, c'était très important de servir de relais et libérer la parole des victimes qui, paradoxalement, se sentent plus ou moins coupables de ce qui leur est arrivé, ajoute-t-elle. Ainsi, nouvellement élue au Conseil national de vie lycéenne, elle imagine la création d'un groupe de parole et de réflexion qui réunirait des jeunes et des professionnels tels que des sociologues, juristes, avocats, pour apporter un éclairage plus complet sur ce phénomène qui a eu tendance à s'amplifier, comme le disait Oxane, notamment avec l'accès à Internet. Keïna et les jeunes représentants des lycées ont exprimé les problèmes de vie scolaire, les souffrances individuelles, et les revendications de leurs camarades auprès de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Keïna aimerait aider un maximum de personnes, c'est mon rêve, dit-elle. Pour atteindre son objectif et aller plus loin dans son engagement, elle veut faire des études de droit. Elle aspire également à créer une ONG. Alors je tenais à mettre en lumière cette jeune fille courageuse qui a su dépasser son harcèlement et dans la résilience trouver la force de continuer à lutter aux côtés des autres pour que les choses changent. Alors moi je ne te connais pas personnellement Keïna, mais au nom de tous les harcelés, merci et bravo. Je pourrais vous laisser l'article, peut-être qu'on pourra le mettre en lien.
Merci beaucoup David. On va continuer sur notre lancée et on accueille nos invités, deux artisans du faire dire plutôt que de dire. Marc Rapilly qui vient nous parler d'une action de médiation-réparation qu'il a récemment mise en place et Myriam Loton pour découvrir son spectacle aux allures de prévention 1, 2, 3, insulte. Oh,
Salut Myriam.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci de nous avoir invités.
C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Marc et Myriam, vous n'êtes pas des inconnus, vous vous connaissez depuis 2007 si je ne me trompe pas.
Apparemment, ouais.
On vient de le découvrir.
C'est ça.
Et vous êtes aussi tous les deux membres du collectif Art Vif. On va en parler très, très, très rapidement tout à l'heure. Marc, on va commencer par toi. Marc Rapilly, donc, tu es une personne aux multiples facettes. Tu es boxeur depuis le plus jeune âge. Tu as été entraîneur pendant 10 ans avant de rendre ta casquette de coach en 2019. Passionné de théâtre, tu t'es formé au métier de comédien au cours Florent. Acteur, tu as également joué dans plusieurs courts et longs métrages de l'association cannaise collectif Art Vif, tels que La Liberté si je veux ou YOLO, on n'a qu'une vie. Mais également, tu as joué également dans Groom, une web-série française produite par Studio Bagel aux côtés de Xavier Niel. Enfin, tu es aussi éducateur spécialisé depuis 1993 et tu sévis en prévention spécialisée sur les villes de Colombelles, Giberville et Mondeville en tant qu'éduc de rue. C'est au travers de cette dernière facette, mais non moins alimentée par toutes les autres, que tu as mis en place une action de médiation-réparation. Alors l'action de médiation-réparation, c'est quoi ?
Alors en fait, l'idée, l'idée c'était pas de transposer le principe de la médiation-réparation pénale, même si c'est de ça dont je me suis inspiré. La médiation-réparation pénale, c'était l'objet de mon mémoire. Quand j'étais en formation à l'IRTS, à l'école d'éducateurs, et j'avais voulu à l'époque voir si on pouvait transposer le principe de médiation-réparation pénale dans le cadre d'un foyer. Alors, je redonne quelques principes concernant la médiation-réparation pénale. Yes. Déjà, il faut que les deux parties soient OK pour communiquer. Ça permet de réparer un dommage subi par la victime et de mettre fin au trouble causé par l'infraction. Ça débouche sur un accord amiable entre les deux parties et surtout, ça évite la tenue d'un procès. C'est-à-dire que le médiateur, à la fin de la médiation, doit considérer, renvoie au juge la teneur de l'échange, explicite si effectivement il y a eu accord sur l'arrangement de la réparation. Et si oui, logiquement, le magistrat doit valider, si tu veux, que la réparation a eu lieu.
Okay.
Pour ça, il faut que l'auteur des faits et la victime soient clairement identifiés, que les faits doivent être de faible gravité, ça c'est important, simple, clairement établi et reconnu par l'auteur. La médiation est possible pour les majeurs et pour les mineurs. La mesure de réparation pénale, ça favorise le processus de responsabilisation du jeune vis-à-vis de l'acte commis. Elle aide à prendre conscience de l'existence de la loi pénale, des conséquences de son infraction pour la victime, pour la société et pour lui-même. Et en fait, moi, dans la façon dont j'ai transposé la première expérience de transposition, si tu veux, de médiation-réparation, là, on n'était plus dans la médiation-réparation pénale, on était dans la médiation-réparation, c'était de faire le pari qu'en mettant en présence l'auteur et la victime, on allait réussir à parler des faits, déjà la reconnaissance des faits par l'auteur, et que chacun dans sa position, l'un dans sa position de victime, l'autre dans sa position d'auteur, pourra expliciter, mettre des mots sur ce qui s'est passé. Autant la victime sur ses émotions, le traumatisme, les dommages, la façon dont il vit globalement sa situation de victime. Et l'auteur aussi également lui donner la parole sur le pourquoi il en est arrivé à commettre ce qu'il a commis. Et l'issue étant qu'effectivement, on débouche sur une reconnaissance des faits, mais aussi un accord sur une réparation qui pourrait être juste « je te demande pardon », par exemple, ou « je m'engage à en essayant de développer sur ce sur quoi il peut s'engager. Et donc voilà, comment plutôt je suis venu à m'investir ou à mettre en place une action de médiation-réparation dans le cadre du harcèlement scolaire.
Tout à fait ma deuxième question. Merci Marc.
Le travail d'éducateur de rue, si tu veux, c'est simple, c'est on travaille beaucoup sur la demande. Mm-hmm. Il y a trois principes, c'est la libre adhésion, l'anonymat, la confidentialité. On intervient souvent, et c'est le mieux, sur la demande explicite d'un jeune, donc ça va de 11 à 25 ans, sur un problème rencontré. Là, en l'occurrence, pour faire court, c'est une jeune qui nous a appelé pour nous avertir qu'elle était victime de harcèlement et qu'elle aimerait bien nous en parler. petite jeune qui était dans un collège. Et donc, on a pris contact avec, je vous fais court, hein, on a pris oui. contact avec les, comment dire, les responsables de l'éducation nationale du collège et on a proposé, comment dirais-je, la mise en place d'une médiation.
Au sein du collège, donc.
Au sein du collège.
Ok.
Là, c'était un peu particulier parce qu'il n'y avait pas une harceleuse, mais plusieurs harceleuses, dont donc la victime nous avait donné les noms. Et pour faire court, on avait proposé à la principale du collège de convoquer les qui étaient que des filles, donc c'est que des collégiennes, pour échanger sur cette situation-là. Le principe, c'est qu'il y avait, alors contrairement à la médiation réparation pénale, c'est qu'il y a un témoin qui prend des notes.
Un scribe, en quelque sorte.
Oui, bon, c'est... en fait, la personne est juste témoin. En fait, c'est quelque chose que j'ai rajouté au principe de médiation réparation pénale, parce que dans la médiation réparation pénale, il n'y a qu'un médiateur. Qui ouais. rend compte au juge, tu vois. Là, en l'occurrence, moi, je souhaitais qu'il y ait aussi un témoin qui prenait des notes et qui pouvait éventuellement, en partant des notes, reprendre des propos pour clarifier, reformuler, mais qui, a priori, n'intervenait pas forcément, tu vois.
D'accord, ouais.
Et le principe dans la mise en place, il y a un protocole, c'est que les collégiennes pouvaient ne pas répondre à la convocation, c'est-à-dire qu'elles y venaient de leur libre choix. Hein. Et deuxièmement, donc elles étaient, il y avait quand même 6 ou 7 personnes qui avaient été, nommées par la victime. Donc il n'était pas question, bien évidemment, de mettre en présence la victime et les 7 protagonistes. Hein. Il s'agissait que, connaissant l'effet du groupe, ouais. hein, sur les individus, ouais, ouais. Et puis la pression que ça pouvait représenter pour cette jeune collégienne, on souhaitait que les choses se passent de personne à personne et que chacune puisse très clairement prendre des positions qui étaient la sienne et pas... Et pas la position du groupe avec l'influence du groupe.
Voilà. Ouais, et puis ça permet justement du coup le fait d'être face à face et une personne versus une personne, ça permet aussi du coup aux personnes identifiées comme harceleurs de pouvoir peut-être parler plus facilement aussi, comme tout tu disais fait. Tout à l'heure avec l'effet de groupe, c'est parfois un peu plus simple.
Tout à fait, exactement. Alors dans le protocole, excuse-moi si tu me coupes, hein, si je suis un petit peu bavard, mais le protocole, c'est juste de mettre les gens à l'aise quand ils viennent. Déjà, ils acceptent la convocation, donc ça veut dire qu'ils sont OK pour réfléchir.
Ouais.
Et de fait, quand on lance le débat, et à chaque fois, on dit on n'est pas là pour juger, pour faire la morale, ni pour sanctionner. On est là pour réfléchir ensemble à une sortie. Déjà, comment toi, tu as vécu la situation ? Comment de ta position tu as été actrice ou tu t'es sentie actrice, pourquoi tu t'es sentie actrice. Et l'idée, c'est de sortir de cette réunion de médiation avec des idées, mais c'est les idées qu'en commun, on aura envisagées, que chacun peut apporter,
ouais.
tu vois.
Pour ouais, donc que c'est les ça, choses c'est s'arrangent. Pas de jugement, pas de sanction, on fait circuler la parole et on essaie de trouver ensemble des solutions pour que les choses puissent s'arranger et que chacun puisse ressortir de ça, grandi quelque part.
Grandi et puis soulagé parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent, les auteurs sont aussi mal à l'aise parfois d'avoir été partie prenante du groupe sans avoir été forcément très... sont actrices malgré elles, en fait, plus par solidarité que par... par conviction réelle.
Elles se font parfois happer en fait, par la dynamique du groupe et se retrouvent un peu dans des spirales quoi, dont elles n'arrivent pas forcément à sortir.
Exactement. Alors au collège, c'est vraiment typique. Hein,
ouais. Ok, merci Marc. C'était hyper, hyper clair. C'était très... c'était très bien. Merci.
Merci.
On retrouve maintenant notre deuxième invité qui a également de nombreuses cordes à son arc. Bonjour Myriam Letton.
Bonjour.
Alors toi Myriam, t'es formée au métier de comédienne à la Cité Théâtre, anciennement Actea à Caen. Tu as intégré le Bazar Naum en 2007, c'est le collectif association et lieu emblématique sur la place de la culture cannaise. comédienne, donc metteur en scène aussi, réalisatrice. Tu passes aussi de l'autre côté de la caméra, actrice. On a pu te voir dans deux longs métrages du collectif Art Vif, notamment La Liberté si je veux, où tu interprètes une assistante sociale médusée qui se fait piquer sa voiture. Et dans YOLO, On n'a qu'une vie, où tu incarnes Sonia, la voisine et première alliée potagère du personnage principal, interprétée par Martin Lehaut. Et pendant 10 ans, tu co-diriges la compagnie de théâtre L'Oreille Arrachée jusqu'en 2017. Et c'est à ce moment-là que tu crées la compagnie Foutu Quart d'Heure.
Super bien renseigné.
Internet était mon meilleur allié.
Ouais.
Donc la compagnie Foutu Quart d'Heure, qu'est-ce que c'est ?
Alors Foutu Quart d'Heure, donc, c'est une compagnie de théâtre et audiovisuel. Mmh. Donc implantée sur Caen et qui diffuse des spectacles qu'elle crée. Des spectacles auprès de jeunes adultes, des scolaires ou bien des tout publics, que ça soit en rue, en salle ou bien sous forme de performance. Donc voilà, on est un petit peu sur comme disait ma grand-mère, évidemment dans la période de la guerre, que c'était un drôle de quart d'heure et qu'on pouvait rire, pleurer, avoir tout plein d'émotions. Et bien, en hommage à ma grand-mère résistante, je me suis dit, tiens, foutu quart d'heure, c'était un bon mot pour dire on allait traverser plein d'émotions ensemble.
Mais ouais, c'est trop beau.
C'est agréable. C'était la petite touche émotionnelle de la soirée.
Oui, c'est agréable de connaître cette l'anecdote. Donc en 2020, avec ton collègue comédien et metteur en scène Maxime Gosselin, vous créez et présentez le spectacle 1, 2, 3, insultes. Vous parlez de harcèlement scolaire et de discrimination. Alors pourquoi vous avoir monté ce spectacle
Alors, déjà, on travaille depuis, donc, on a toujours travaillé avec les lycées, avec les élèves sur la création de nos spectacles, souvent sur 2 années. La première année, on récolte les témoignages, les expériences des élèves. On voit avec eux, évidemment, quels sont dans une thématique proposée, quels sont les sujets qui ressortent, les problématiques qui ressortent. Et pour 1, 2, 3 insultes, évidemment, la problématique du harcèlement était claire. Et donc, sur 2 ans, voilà, on a travaillé avec des classes de seconde et du lycée Grignard de Cherbourg et des classes de 4e du collège Cachin de Cherbourg. Et voilà, pendant 2 ans, on a et récolté et essayé des choses au plateau. On faisait habituellement du théâtre au forum, mais... Évidemment, si on n'est pas expert de la technique d'Augusto Boal, et que je pense que c'est un travail de vie, cette technique-là, eh bien, on ne peut, je pense, pas aller... si on fait ça ponctuellement, on ne peut pas aller au bout de ce travail. Et donc, nous, on n'arrivait pas à travailler avec cette technique-là. Vraiment, on n'y trouvait pas notre compte, en fait, tout simplement. Et on a décidé de créer une forme plutôt fictionnelle. Et cette fiction, c'était de réunir un petit peu... toutes les situations de harcèlement sur un seul personnage, qui est donc Joséphine. Et tout au long de sa scolarité, on va voir toutes les situations de harcèlement, les mises à l'écart, les insultes, les agressions physiques, tout ce qu'il peut y avoir, évidemment, dans le harcèlement physique ou le harcèlement moral. Et puis, suite donc à cette création-là, eh bien, on le diffuse maintenant auprès des fins de primaire, CM1, CM2, des collèges et des lycées. Et à l'issue de ce spectacle, on échange avec les élèves. Alors attention, on n'est pas des professionnels de la santé, on n'est pas des éducateurs, on n'a pas, nous, cette mission, on va dire, de santé à essayer de résoudre les problèmes. Pas du tout, mais par le prisme de ce spectacle-là, les équipes pédagogiques peuvent, eux, travailler comme, avec ce support-là.
En support, en fait.
Exactement.
Ouais.
Et puis, bah, comme disait Marc... c'est, et comme tu le disais aussi, c'est la libération de la parole. C'est comment permettre aux élèves, que ce soit des victimes, des ciblés, parce que maintenant on ne dit plus les victimes, on dit des ciblés, puisqu'il n'y a pas de notion de faute, il n'y a pas de notion de honte à avoir, voilà, donc de cibler.
Et puis
d'être pris pour cible, exactement. Et puis ces intimidateurs, puisque les termes changent, hein, on dit plus pauvre, on dit précaire, hein, n'oublions pas. donc voilà, comment on peut les aider à libérer leur parole et leur dire, regardez, il y a des ressources, des personnes ressources. Il y a le programme phare qui se met en place, qui est donc une formation auprès des adultes pour accompagner et aider les jeunes. Donc, libérez la parole, parlez et dites s'il y a un problème ou si vous êtes témoin aussi, parce que les témoins peuvent être vraiment, vraiment très, très utiles pour aider les jeunes en détresse.
Et du coup, c'est ces jeunes qui montent sur scène ?
Alors voilà, ce spectacle a une spécificité, c'est que nous, comme on est deux vieux qui venons de l'extérieur, du haut de mes 41 ans, et puis Maxime un peu plus jeune quand même, mais il nous semblait un peu étrange de présenter un spectacle avec nous qui sortait évidemment du cadre scolaire. Eh bien, on invite 8 volontaires à venir donc le matin pendant une heure à apprendre des codes de jeu. Ils vont découvrir le spectacle en même temps que le public.
Okay, mais
c'est
génial,
ils découvriront, ils connaîtront juste des codes de jeu, puisque pour certains, ils ont des rôles un peu plus définis. Pendant une heure et demie, on bosse avec eux. Et ensuite, on se retrouve l'après-midi pour une ou deux représentations. Et ils jouent avec nous sur scène ponctuellement. Donc, ils n'ont pas de texte, évidemment, on double leur voix. Mais ils doivent interpréter dans le corps. Ils ont des choses à faire physiquement, à parler au micro, à dire des choses au micro, notamment des insultes ou d'autres choses. Mais ils sont vraiment impliqués. Et là, il y a l'effet miroir avec, évidemment, le public, les jeunes.
C'est incroyable parce que ça me fait penser, on en avait parlé dans une émission précédente, mais c'est une manière aussi d'apprendre l'empathie.
Eh bien, c'est exactement. Nous, dans l'échange, on parle toujours de la carte Joker qui vous servira toute votre vie. C'est cette carte fameuse qui est l'empathie. Et cette carte, si on l'utilise à bon escient, enfin, de toute façon, ça sera toujours à bon escient, mais c'est la super carte Joker. Si on se met à la place de l'autre, eh bien, peut-être qu'on se dira, j'ai peut-être pas envie de vivre ça. Et ça nous ferait réfléchir sur nos comportements.
Merci, Myriam.
De rien.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale avec une proposition que Alain nous a faite et on va écouter Seul dans la cour de Grégoire.
Il était là seul dans la cour à regarder les autres qui courent, à essayer de se faire discret, de ne pas se faire remarquer. Il était là seul dans la cour à attendre que finissent les cours, attendre d'être un peu chez lui, avoir un peu de répit. On le voyait là seul contre le mur à essuyer les tas d'injures que les autres lui jetaient pour rire. Moi je restais là sans rien dire. On le voyait là seul contre le mur, le regard de plus en plus dur. Moi j'étais lâche, moi j'osais pas, de peur que ça m'arrive à moi. Il était là seul dans la cour, à laisser défiler les jours, à toujours traîner son air triste, se demander pourquoi j'existe. Il était là seul dans la cour, à même pas demander d'amour, et même pas qu'on lui rende ses billes, mais juste qu'on le laisse un peu tranquille. Il était pas de ceux qui se battent, pas de ceux qui se donnent des patates. Il était pas dans les balaises, mais plutôt de ceux qui se taisent. Il était pas de ceux qui balancent, trop enfermés dans son silence. Il était de ceux qui les cachent, tous les coups, les traces et les tas. Il était là seul dans la cour et moi-même je m'y suis mis un jour. Fallait bien faire partie de la bande, fallait pas que ma joue leur tende. Il était là seul dans la cour à toujours avoir peur d'autour, du plus petit bruit, du plus petit cri. Je crois bien qu'il dormait plus la nuit. Il était là seul dans le noir, toujours le dernier dans le couloir. Personne n'a vu, personne n'a su, personne ne voulait avoir pu. Il était là seul dans le noir, entouré de son désespoir, a même pas demandé d'amour, n'ont même pas demandé d'amour. Il était là seul dans la cour, a même pas demandé d'amour. Il était là seul dans la cour, a même pas demandé d'amour. A même pas demandé.
Vous êtes bien sur Bonjour Turbine, sur une émission consacrée au harcèlement scolaire, avec nos invités Myriam Loton et Marc Rapilly.
Rebonjour.
Hello.
Pour poursuivre donc du coup l'interview de nos invités, je voulais juste faire un petit mea culpa. Marc Rapilly n'a pas joué avec Xavier Niel, mais avec Jérôme Niel. Voilà, petit aparté.
C'est pas la même classe.
C'est pas tout à fait le même délire. Voilà. Bon, alors du coup, Marc, pour revenir donc sur l'action de médiation-réparation que tu as mis en place au sein d'un collège, avec Marion, quand on a préparé l'émission, on se demandait est-ce que cet espace, il peut être ouvert aux personnes qui ne sont pas forcément directement concernées par la situation de harcèlement qui est évoquée. Est-ce qu'il peut y avoir, entre guillemets, pas des spectateurs, mais un peu comme tel, tu vois.
Bah écoute, j'ai pas réfléchi à la question. Personnellement, je pense que c'est déjà suffisamment compliqué.
Oui, c'est ça, oui. Il y a un peu de...
Tu vois, il y a quand même déjà pas mal d'émotions. Il faut que tout le monde soit bien concentré. Si tu penses à spectateurs... éventuellement
c'est dans,
que
c'est dans le sens si jamais il y a des, par exemple des personnes qui étaient témoins de la situation mais qui témoins de loin tu vois et qui voulaient voir comment ou des personnes qui sont intéressées par ce type d'action éducative et qui voudraient voir en fait comment ça peut se passer tu vois dans des écoliers hein, j'entends des personnes qui sont au collège concernées
Je pense que la base de ça, faudrait qu'il y ait le consentement des protagonistes des personnes qui participent. Sur le principe, c'est à creuser. C'est vrai que le matériau éventuellement pourrait être réutilisé à d'autres moments, c'est ça faire un documentaire ou c'est ça,
chose par comme exemple ça. Présenter aux élèves que ça existe et qu'il y ait moyen de faire ça. Après, si ça remplit toutes les conditions, bien sûr, mais juste qu'ils soient informés peut-être ou que c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Bah écoute, c'est à réfléchir. Hein, c'est à réfléchir.
Mais ça n'a pas été expérimenté. C'est bien.
Et donc on profite de t'avoir encore avec nous, Marc, parce qu'on se demandait aussi, toi, qu'est-ce qui t'a mené en tant que toi, Marc, pas forcément qu'en tant que professionnel, mais à travailler sur cette question-là du harcèlement ?
En fait, je pense que c'est vraiment purement professionnel. C'est-à-dire que c'est l'occasion, hein, si tu veux. Peut-être que si cette collégienne ne nous avait pas demandé, ne nous avait pas appelé, j'aurais pas forcément eu l'idée de travailler sur le sujet.
Okay.
Et en fait, c'est en travaillant sur le sujet, en mettant en place cette séance de médiation-réparation qui s'est bien déroulée. Et en fait, on n'a jamais eu d'écho de réitération, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer que les choses se sont réglées, que ça a été, ça s'est soigné, entre guillemets, si tu veux, tu vois.
Ouais.
En tout cas, que les solutions qui avaient été trouvées par les protagonistes ont porté leurs fruits et que les choses se sont réglées. Je me perds, là.
Non, c'est bien, mais ça peut s'arrêter là aussi, hein, oui. Si toi, ta réponse te convient. Elle me convient également. Et puis, ça nous permet d'ouvrir sur Myriam.
C'est ça, Myriam, même question. Qu'est-ce qui t'a...
Alors, qu'est-ce qui m'a amené à monter ce spectacle, en tout cas, 1, 2, 3 insultes. Moi, j'ai une expérience in situ, puisque j'ai été harcelée. J'ai été harcelée, mais dans les années 90-2000. Mm-hmm. Et donc, heureusement pour moi, je n'avais pas les réseaux sociaux, parce que ça aurait pu être vraiment un carnage. Et aujourd'hui, vraiment, 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 les réseaux sociaux, c'est incroyablement dur pour ceux qui en sont, en tout cas, ciblés cruel, ou victimes. Ouais. C'est très cruel. Et en fait, la première scène du spectacle où Joséphine en fait fait pipi en classe primaire, en classe, le maître refuse qu'elle sorte de classe, voilà, donc elle fait pipi et sa meilleure amie Marlène, eh bien, va le dire arrivée en sixième et ça va être le début de son harcèlement. Et ce que je dis à l'échange après le spectacle, c'est que cette scène, c'est mon souvenir. C'est mon témoignage à moi. J'ai fait pipi en classe primaire. Le maître n'a pas voulu que je sorte. Et donc Marlène, qui était le vrai prénom de ma meilleure amie de l'époque, a attendu la sixième pour en parler et donc a commencé mon harcèlement scolaire. Donc il a duré des années. Mais ce qui change évidemment aujourd'hui, peut-être, c'est que dans le temps, il y avait peut-être d'autres choses. On pouvait vivre d'autres choses où ça s'équilibrait. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec l'isolement ou l'individualisation d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est victime ou ciblé, eh bien, il n'y a plus que ça, en fait. Puisque quelles sont les ressources? Quelles sont les aides à côté?
Il n'y a pas d'espace tiers, il n'y a pas d'espace refuge.
Exactement. Alors qu'avant, il y avait d'autres choses. Je ne sais pas. Donc voilà, je leur parle de mon témoignage aussi. Et je pense que ça a été un petit levier de plus pour créer ce spectacle.
Ouais, et puis en plus, ce que je trouve assez fort dans le témoignage que tu nous apportes et dans la manière dont tu en parles aussi avec les enfants ou les adolescents, c'est qu'ils voient une personne adulte, assumée, qui est en capacité de pouvoir parler de ce qu'elle a pu vivre forme, et aussi de ses vulnérabilités. Et mine de rien, il y a un côté... très éducatif à cet endroit-là également. Tu sais,
oui, puis et sincère et honnête, en fait. Les gamins qui me voient, et qui, évidemment, dans l'échange, c'est « Mais comment ça s'est fait pour arrêter? Comment t'as fait ?» Et puis ça. Et en fait, je leur dis « Mais c'est que moi, j'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé parce qu'à l'époque, on nous disait pas « Parler ». Aujourd'hui, on est là pour vous dire « Parler ». Les profs se forment, tout le monde se forme, pour vous accueillir, pour accueillir votre parole. Et ça, c'est hyper important. Alors, Joséphine, elle commence, elle a 9 ans, elle finit à 15-16 ans dans le spectacle. Il voit aussi l'évolution. Et il voit comment, si on ne parle pas, ça peut mais perdurer, ça peut même vraiment...
Ouais.
Bah oui, non, c'est un cercle infernal.
Du coup, j'imagine que les réactions justement des spectateurs, si jeunes ou plus âgés soient-ils, c'est jusqu'à quel âge d'ailleurs les
Nous, on va généralement donc du CM1 jusqu'à la seconde, mais il se peut que des lycées nous appellent pour intervenir sur des classes de première s'il se passe des choses.
D'accord, parce mais qu'au lycée, c'est déjà grand quand même.
Ouais, mais les formes de harcèlement évoluent aussi et sont justement avec les réseaux sociaux sont beaucoup plus cruelles.
Mais du coup, j'imagine que les réactions, enfin là, en t'écoutant, il doit y avoir des réactions assez vives, assez rapides.
Les réactions sont multiples parce qu'en fait, en plus des 8 élèves qui viennent jouer pendant le spectacle, Maxime, qui est le narrateur et qui fait avancer le temps et la machine quoi, infernale, va présenter des pancartes au public. Et donc, eux, ils peuvent répéter s'ils le souhaitent. Ils n'ont pas l'obligation, mais évidemment, ils sont un peu piégés parce qu'ils se disent « Ah, il y a un monsieur qui nous dit qu'on peut répéter, alors on répète. » Donc, ils vont m'insulter pendant une heure. Ils vont faire ils vont me chauffer de plus en plus et m'humilier de plus en plus. Et en fait, on leur montre ce que c'est que l'effet de groupe, justement. De par ça, c'est cette mise en abîme de cette expérience-là sur une heure. Vous avez vu, vous avez répété, vous avez eu 100 élèves, 150 élèves qui humilient Joséphine pendant une heure. Donc, on leur parle de l'empathie, on parle des émotions, on parle de l'effet de groupe. Pour dire, voilà, il n'y a pas forcément une personne qui est leader dans l'effet de groupe. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas. C'est comme sur les réseaux sociaux. Bon, bah, y a des likes, bon, bah, on y va. On n'est pas, nous, si vous êtes complices. Si, si.
C'est une force impalpable, mais...
Ah, mais incroyable. Donc, mais du coup, à la sortie des spectacles, on a souvent des jeunes qui sortent en pleurs, qui sont même pendant le spectacle, ou enfin souvent à l'issue, pendant l'échange, et qui pleurent, ou qui viennent me voir pour dire, bah, moi, j'ai vécu ça, ou je vis ça actuellement. Donc, j'ai bon, bah, on va t'accompagner, on va aller voir le CPE, ou le principal, ou l'approviseur, et puis on va en parler. D'accord, on y va.
Et du coup, vous faites une discussion après le spectacle ?
Ouais, pendant une demi-heure, 45 minutes, enfin le temps qu'il faut. On n'est pas dans le format de le temps nous faut qu'on parte. Non, s'il y a besoin, mais on n'est pas non plus dans l'accueil de tous les témoignages. Encore une fois, on est des artistes, on n'est pas des professionnels de la santé, on n'est pas en capacité de recevoir tout ça et de les analyser et de comme Marc en fait. Marc, c'est son travail, c'est son boulot, il connaît, il a des ressorts, il a des ressources. Nous, on vient présenter un spectacle avec l'aide de l'équipe pédagogique, alors on peut les aider. Mais moi, je peux que les renvoyer vers les équipes pédagogiques. Mais ça parle, ça libère.
Et une petite dernière question avant de passer à la chronique de David. Votre regard sur le harcèlement scolaire, est-ce que c'est une relation binaire, presque, ou triptyque, bourreau-victime et sauveur, parce qu'il y a aussi parfois des témoins qui veulent aider, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ?
C'est plus compliqué. C'est compliqué, plus compliqué, je trouve, entre les effets de groupe, entre parfois les harceleurs ou les intimidateurs, ils sont là pour faire rire tout un groupe aussi. Mmh. Donc ils sont pas forcés, ils sont pas seuls, les intimidateurs. Ils sont pas là, sauf s'il y a du racket. Et encore, c'est souvent en témoin de leur groupe pour regarder comme je suis fort ou forte, ou comme je peux vous faire rire en prenant appui sur cette jeune fille ou ce jeune garçon. Mais c'est et puis parfois aussi les intimidateurs ou les harceleurs, ils ont vécu eux-mêmes aussi des choses compliquées. On découvre souvent qu'ils ont eu des complications au niveau familial ou bien qu'eux-mêmes ont été harcelés avant. Et donc, c'est quand même tout un schéma qui s'opère pour certains et qui remettent sur d'autres. Moi, je trouve que c'est très complexe. Et puis, c'est des mises en abîme, de mises en abîme entre les groupes, les personnes. Et puis ceux qui prennent cher, en fait, alors que c'est sur rien, c'est à partir de rien.
Il y a des statistiques comme ça qui sont sur des choses un peu plus extrêmes, mais qui identifient le fait que parmi les personnes agresseurs, 90% de ces personnes-là ont elles-mêmes été agressées plus jeunes, mais qu'en revanche, parmi les personnes qui, étant jeunes, ont été agressées, seulement 10% vont devenir agresseurs eux-mêmes. Et je trouvais ça important de...
Moi, je m'en rappelle d'une élève qui, au début de rencontre sur les récoltes, avait dit « Non, mais c'est bon, de toute façon, s'ils sont agressés, c'est parce qu'ils sont faibles. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. De toute façon, ils ont des têtes à claque. C'est bon, ils le méritent. » Elle était
très virulente.
Très virulente. Elle habitait chez sa tante parce qu'elle s'était fait exclue d'un lycée de Paris. Et bref, elle était vraiment en refus de tout. Et quand on est parti des temps de résidence, des temps de travail, elle pleurait en disant « Non, mais en fait, je comprends, mais c'est atroce, mais il ne faut pas leur faire endurer ça. » Et tu dis « Waouh, mais en fait, c'est juste des gens qui sont peut-être déconnectés sur de l'empathie ou qui sont déconnectés de choses parce qu'ils ont tellement de violence sur eux, on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'ils déconnectent sur des trucs. C'est juste de reconnecter. »
Et que parfois aussi, il y a un effet miroir qui peut se produire. C'est-à-dire que quand on a soi-même été oppressé, quand on croise un alter ego qui, lui, est aujourd'hui oppressé, ça nous renvoie des choses tellement violentes, tellement inacceptables, tellement insupportables qu'on peut se mettre dans une position de rejet et d'intolérance, en fait, qui peut se manifester de manière très,
oui,
très
c'est,
violente.
C'est vrai. C'est assez polymorphe, hein, la posture de harceleur et aussi de victime. C'est-à-dire qu'en fait, pour la situation dont je parlais tout à l'heure, en discutant, on s'est rendu compte que la petite collégienne qui avait appelé au secours à un moment donné avait été à l'origine de ce harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait lancé. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, mais je dis que c'est important quand même de mettre en relation les auteurs et les victimes parce qu'à un moment donné, la victime peut prendre conscience que s'il est arrivé ce qui est arrivé, le processus de victimisation, de harcèlement, etc., c'est consécutif à une parole dont elle n'avait jamais imaginé que ça puisse avoir des effets aussi importants par la suite. Et ce qui avait été intéressant aussi de déceler à un moment donné, c'est qu'en fait, pour l'essentiel des auteurs, les choses étaient réglées, mais pour elle, non. C'est-à-dire
elle n'était pas sûre.
C'est-à-dire qu'en fait, il y avait cette espèce de situation de harcèlement possible qui était larvée. Mais comme il n'y avait pas eu de mot de mis sur la fin du harcèlement, possiblement, elle se disait que de demain, peut-être, ou dans une heure, le harcèlement allait pouvoir revenir, qu'il était là et qu'elle allait à nouveau en subir des conséquences. Ça la mettait dans un inconfort psychologique, avait des conséquences sur sa scolarité, sur sa relation dans le collège, enfin sa vie dans le collège, etc.
Donc toi, tu as eu un retour au final sur l'action de médiation de réparation que tu as mis en place de la part de cette jeune qui a elle aussi pu prendre conscience de choses.
Sur le moment, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'avait pas pris conscience qu'à l'origine, il y avait eu ce mot malheureux, cette phrase malheureuse, cette critique malheureuse sur tel élève et que voilà, le processus avait été mis en place et qu'elle en avait été l'origine malgré elle, sans s'en rendre compte.
Oui, comme quoi les relations oppresseurs, oppressés, dominants, dominés, parfois on pense être ne jamais oppresser qui que ce soit et en fait on se rend compte qu'on est tous à un moment dans nos vies, plusieurs fois, même par jour, sans s'en rendre compte, l'oppresseur de quelqu'un. Il faut parfois redescendre un peu du piédestal sur lequel on peut se mettre soi-même. Je dis pas ça pour la jeune fille, hein. Attention, je généralise là, j'ouvre. J'essaie de faire une transition en fait avec David.
C'est bien, c'est géré.
David, c'est ton tour.
Merci beaucoup Myriam et Marc.
Merci à vous.
Oui, et du coup maintenant on accueille David pour sa chronique. Bonjour David.
Oui, bonjour. Avant que de lancer le jingle, du coup, en préparant l'émission, Oksane m'a dit « Écoute David, si tu te sens pas de faire une chronique sur le harcèlement, tu peux choisir autre chose. » Je lui ai dit, là pour le coup, elle m'a quand même tendu une super perche et je me suis dit « Merci Oksane. »
Ouais, parce que
mais,
tu fais des chroniques humoristiques.
Du coup, je vais quand même vous parler de quelque chose d'assez exceptionnel quand même.
On n'en doute pas.
Gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'en merdes.
L'histoire de l'histoire avec David, entrée dans l'histoire dans Bonjour Turbine. Oui, donc un morceau d'histoire avec quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. Il s'agit de la révolte des machines à laver. Alors moi, Antoine Moleskine, reporter sans peur et sans reproche à Lessive Mag, je couvre actuellement la révolte des machines à laver. Je me trouve à Organdi, en Inde, au cœur de l'événement. Alors faisons machine arrière pour mieux comprendre les raisons de ce grand bazar. Le 33 janvier, la mère Denis, la vedette des machines à laver, meurt d'un coup de calgon. Le trône de la mère est donc vacant et tous veulent régner sur le beau linge. 35 janvier, les Verts proposent Persil comme représentant, légué Homo, les lavandières Ariel, les nourrissons, l'ours de Cajoline, et enfin les puissantes machines à laver et leurs enzymes préfèrent Gamma, car selon eux, il en connaît un rayon. Le 37 janvier, le peuple donne carte blanche aux lavandières, au grand désarroi des machines à laver. 45 janvier, le grand vizir, à la tête des machines à laver, ordonne la révolte. 46 janvier, départ de Tulle pour les machines à laver, direction Organdy. 54 janvier, arrivée à proximité d'Organdy, l'assaut va avoir lieu. Je scrute le Gange et ses belles lavandières indiennes. À quelques kilomètres, la 5e batterie blindée des machines à laver du grand vizir avance, tambour battant, vers ce même lieu. 6h05, début de ma filature, caché derrière un buisson, j'assiste au réglage du lavage automatique qui, comme chacun le sait, est une arme puissante. La température monte, 30, 60 degrés. J'essore mon appareil photo, tente de shooter le grand vizir, mais point de tâche à l'horizon. 6h10, en contrebas, nous pouvons entendre le chant si beau des lavandières qui entonne à la claire fontaine. Machinalement, elle chante, machinalement, elle lave sans se douter du danger qui les guette. 6h30, étrange coïncidence, lavandière et machine à laver effectuent de complexes exercices d'assouplissement. 7h, apparition de la sale bobine du grand vizir. Il est entouré de ses conservateurs. Voici son discours devant un parterre de laveuses, de lessivieuses et autres sèches-linges. « Chers amis, il est temps d'entamer le grand ménage de printemps. Il nous faut brosser de la carte une fois pour toutes les lavandières. Nettoyez cette vermine pour qu'elle finisse sur l'étendoir. Ce ne sera pas coton, mais il est clair que nous ne le ferons pas dans la dentelle. Et en cas de probable succès, chacun pourra remplir son bas de laine. Alors tous pour l'un et tous pour soi. Traboule !» 7h35, le combat pour la suprématie géotextile débute. Surprise, les lavandières s'abritent derrière leurs planches à laver et enfourchent leur battoir bien décidé à en découdre. Les machines à laver misent sur la réussite de l'opération lavage rapide. 7h45, la lutte fait rage. Un savon de Marseille manque de me toucher. 7h50, les machines de l'Aden arrivent en renfort. Vizir déclare alors... On va la voir. Victoire. La victoire semble acquise à 8h pour les machines. Et à 8h01, un chant transperce le champ de bataille. Une masse noire jaillit au cœur de l'horizon. Ce sont les babillardes blanchisseuses de Paris. Elles sont 50 000 pour battre le fer pendant qu'il est chaud et repassé. 8h15, ce bonus inattendu permet de lessiver, laver, essorer la révolte. Drapeau blanc pour les machines. 8h30, blanchisseuse et lavandière mire couleur aux fenêtres pour fêter le retour d'un monde propre et écarlate.
Yeah. Merci.
Jeu de mots et mois de janvier qui n'en finit pas.
Mais oui, merci beaucoup David, notre reporter de guerre, voilà, donc qui nous garde un pied dans l'actualité, comme toujours. Donc pour se remettre de cette belle chronique, on va se faire une petite pause musicale avec une suggestion de Marc qui nous fait découvrir Arrêtez ce train du groupe et collectif de rap rock La Canaille.
Les charognards aux armures brillantes se pavanent et trinquent à la santé des cigarières de la Havane. La tête dans l'engrenage d'un long combat ordinaire, je viens marteler la terre d'un tas de paroles incendiaires mélancoliques. Je ne rêve plus d'équilibre ni d'harmonie. J'entends se rapprocher le grincement des automates sur le fil. Je rêve de ne pas sombrer dans la folie et de finir par avancer le dos courbé à quatre pattes.
Les semelles usées, la voir traîner un peu partout, à cravacher comme un chien, la gueule ouverte et l'air de rien. J'en sors traumatisé, de gérer ma vie au coup par coup, d'avoir la même rengaine qui vient rythmer le quotidien, toujours à cran. Jusqu'à quand et jusqu'où, jusqu'au dernier retranchement, jusqu'à plus tenir debout. Je ne vois que des caboches saturées de plomb à l'horizon, des visages sans nom qui hurlent seuls à l'unisson. Arrêtez ce train, arrêtez ce train, je veux descendre. Arrêtez ce train, là-bas il n'y a plus rien que du feu et des cendres. Arrêtez ce train, arrêtez ce train, j'ai dit je veux descendre. Arrêtez ce train, la foule le crie, le sang des personnes ne peut l'entendre. Sentiment d'impuissance me terrasse, me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction, et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde, je n'y trouve pas ma place, et je suffoque perdu dans le dédale des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure et écrase tout sur son passage. Moteur au bord de la rupture, à l'intérieur c'est la panique. Les neurones court-circuitent, ça va trop vite pour établir, on connaît tous la suite. Maudit soit la race des puissants, aiguilleurs du chaos, leurs instincts suicidaires et leurs penchants pour l'échafaud au coin des lèvres. Toujours cette arrogance, ce petit rictus, mais ils oublient que pour eux aussi il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train, arrêtez ce train, je veux descendre. Arrêtez ce train, là-bas il n'y a plus rien que du feu et des cendres. Arrêtez ce train, arrêtez ce train, j'ai dit je veux descendre. Arrêtez ce train, la foule crie, le sang des personnes ne veut l'entendre.
Bonjour Turbine, en direct sur la station B. Alain, maintenant on te retrouve pour... c'est où, c'est quoi, c'est quand, c'est qui ?
Voilà, c'est ça. C'est qui ?
C'est quoi ?
C'est où ?
C'est quand ? L'agenda culturel d'Alain, le conteur flâneur.
Alors on commence par une expo photo à l'hôtel de ville de Caen jusqu'au 4 mai, salle du Scriptorium. Minorité kurde persécutée par Daesh, les yézidis sont pourchassés, assassinés, réduits en esclavage ou déplacés dans des camps de réfugiés. L'exposition « La voix des yézidis » invite à la rencontre de 15 filles et garçons rescapés. Organisée par l'association Yad in Unum, l'exposition confronte le visiteur au regard de ces rescapés et à leurs paroles. Leurs portraits grand format en couleur ont été saisis par la photographe Emmanuel Foussa dans un camp de réfugiés en Irak. C'est du lundi au vendredi de 8h à 18h, les week-ends et jours fériés de 9h à 13h et de 14h à 18h. Ensuite, le festival Interstice rencontre des Inclassables, 17e du nom. Du 2 au 14 mai, le festival présente des expositions et performances qui proposent à travers des créations faites de sons, de lumière et de mouvements une réflexion sur notre relation contemporaine aux technologies et à l'environnement sous des formes aussi diverses qu'étonnantes. 12 spectacles, 13 expositions, des rencontres et des conférences, c'est gratuit. Le programme complet, les lieux et les horaires sur info@festival-interstice.net ou sur www.festival-interstice.net. Je continue. Une exposition à ne pas manquer, Galerie du Petit Enfer à Luxe-sur-Mer du 28 avril au 4 mai. Ellie Ware, sculpture atypique et unique, et Valérie Bourianmas, couturière de vaisselle ancienne, exposent leur création à deux pas de la mer. C'est poétique, drôle, plein d'émotions. C'est absolument à voir, c'est gratuit et c'est ouvert de 10h30 à 19h. Le samedi 22 avril, à partir de 19h30, le Bazarnaum accueille pour la première fois une soirée, les Caisses de Gaston. Les Caisses de Gaston, c'est une asso de joyeux zinzins comme Thomas qui organise depuis 2016 une course de caisses à savon. Cette soirée est l'occasion pour l'asso de faire un peu de promo sur son événement qui se tiendra le 24 juin prochain à Colombelles et d'exposer ses plus belles caisses. Au programme, Projet 86, CRNCKTA et Orabora.
Venez nombreux !
À Limec, à l'abbaye d'Ardenne, à Saint-Germain-la-Blancherbe, le jeudi 27 avril à 20h, Grand Soir reçoit Edoui Plenel. Edoui Plenel, cofondateur et président de Mediapart, revient sur son dernier livre, L'appel à la vigilance, lancé en 1993 par Maurice Hollander et signé par 40 intellectuels, et poursuit avec nous le débat sur les remous idéologiques de notre temps. L'entrée est gratuite, l'inscription est obligatoire, réservation@imec-archive.com. Et toujours à l'IMEC, le jeudi 4 mai à 18h30, vernissage de l'exposition Table de montage. Pour la première fois, Georges Didi Huberman ouvre ses archives et expose son atelier. Lecteur, dévorateur, regardeur insatiable, Georges Didi Huberman trace pour Table de montage une ligne de coupe dans son réservoir de 148 000 fiches, l'atlas miniature de sa recherche entre disparates, affinités électives et gais savoirs, en 4000 fiches choisies. Chaque fiche, c'est l'espace d'une pensée qui s'ouvre. C'est du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, et avec des visites commentées gratuites les samedis et dimanches à 16h. Georges Didi Huberman présentera le film « Retour à la rue des Halles » de Maria Kurkuta. La projection sera suivie d'un débat entre Georges Didi Huberman et l'artiste. Réservation, vernissage, imec-archive.com. On se déplace un petit peu, on va dans la librairie Place 26 à Douvres-la-Délivrande. Le samedi 20 mai de 10h30 à 11h30, une rencontre avec Boris Cerny, traducteur et russophone de La Foire, suivi de Un passant, de Boris Yampolsky, auteur de langue russe des années 40. Il est chercheur spécialiste du monde juif russe et de l'histoire du peuple juif en Ukraine et en Biélorussie. Pour en savoir plus, contactez Véronique au 09 62 61 01 78 ou sur contact@place26.com. Enfin, au WIP, le samedi 29 avril, retour du bal latino SBK. Vous avez envie de danser ? Retrouvez Marie-Julie, Priscilla, Guillaume et Morlaix pour une soirée latino exceptionnelle. Au programme, stage de bachata, de salsa, ainsi qu'une soirée où salsa, bachata, kizomba seront diffusées pour votre plus grand plaisir, aux commandes des platines, DJ Prissy et Morlaix. Tarifs et horaires et précisions sur le site du WIP, www.le-wip.com. Et enfin, le samedi 13 mai de 14h à 21h, retour du hip-hop avec la 10e édition du Battle Unity pour les 15 ans du SNT Crew. L'entrée du public pour 10€, gratuit pour les participants aux qualifications. En parallèle du battle, retrouvez dans le WIP et sur le parvis d'autres disciplines urbaines, une friperie, des activités, basket, fléchettes, pétanque, un contest de graffiti, des DJ sets vinyle, consoles rétro, des food trucks et pour se restaurer, un bar pour se rafraîchir. Plus de renseignements sur association.snt@gmail.com ou sur le site du WIP.
Super, merci Alain. On a un agenda tout complet, tout bien. On a plein d'idées pour faire plein de choses. Merci beaucoup. Et ben on va retrouver maintenant l'Afken. Enfin, il est où ? Il est là ou il est pas là ?
Je sais pas si je dois prendre la parole. En effet, avant que débute cette émission, je me suis retrouvé entre Oxane, Marion et David, qui n'ont eu de cesse que de me vilipender, me menacer de spoil sur différents ouvrages et me raconter les secrets des fabrications de Knakierta.
Tout de suite les grands mots.
J'ai vécu une nouvelle forme d'enfer. Mais ce n'est pas la première fois. C'est à chaque émission que les chroniqueurs me harcèlent. C'est décidé pour la peine, je ne serai pas là pour la prochaine.
Oh non !
Dali était-il fou ou sans esprit ? Picasso voyait-il le monde en cul ?
Ok.
La poule vient de l'œuf, mais l'œuf vient de la poule ? La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat ?
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache ? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête. Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte. C'est ça, la folie.
Voici ce que vous proposera la microfolie durant le mois de mai. Je fourche en plus. J'avais prévenu que je ne serais pas là pour la prochaine. Le 6 mai à 10h, on vous propose une nouvelle séance autour de la retouche photo, un moyen gentil d'envoyer celui qui vous harcèle dans l'espace. Et à 14h30, on vous propose de partir en Grèce antique à la découverte du Péloponnèse, et c'est toujours grâce à notre partenariat avec Ubisoft. Le mercredi 10 mai, à 14h30, on fait venir les médiatrices du musée des Beaux-Arts de Caen pour une conférence autour de leur nouvelle exposition « Sous le regard de Méduse » qui sera accessible dès le 13 mai. En gros, c'est une avant-première et ça se passe chez nous. Le 17 mai, à 14h30, on fait une micro-folie en famille où l'on vous proposera plusieurs œuvres en rapport avec les gallo-romains. Et votre objectif sera d'en faire une médiation aux autres participants. Le tout avec joie, bonne humeur et garantie sans moquerie et harcèlement. Le 20 mai, c'est sur toute la journée que l'on organise une chasse au trésor. Aphrodite n'a plus de bras. Une véritable enquête pour notre mascotte Mirophilo qui aura besoin de l'aide de tous nos jeunes détectives en herbe. Et enfin, le 31 mai, on vous propose de nous accompagner à 14h30 au musée des Beaux-Arts de Caen, où vous pourrez visiter l'expo Sous le regard de Méduse avec une visite guidée cette fois-ci. Allez! Aujourd'hui, je vous propose une petite variante de mes quiz. Vu la thématique, c'était pas facile de vous proposer quelque chose qui est un lien.
Tu m'étonnes.
Ouvrez bien grand vos oreilles, tout le monde est libre de répondre, c'est très facile aujourd'hui. Roger, Marcus et Tiffen sont ravis de voir leur ami Timmy tous les jours. Pour leur montrer leur amitié, ils lui donnent le surnom de Bigleu, en rapport avec ses lunettes et ses gros verres. Si leur ami est trop calme, alors ils lui prennent ses lunettes et les cachent. Oh, c'est fou ce que c'est drôle de voir leur ami Timmy chercher partout. Question, combien y a-t-il d'amis de Timmy?
Bah aucun.
Zéro.
Ouais, zéro.
Clairement.
Alors je vais mettre le mot ami entre guillemets, juste pour ce petit exemple.
Il y a Roger.
Trois alors.
Ouais, trois, Roger.
Bah trois faux amis du coup.
Donc trois faux amis. Très bien.
On a bon?
Vous avez bon, c'est bien 3.
Félicitations.
Sarah a sauté plusieurs classes. Elle se retrouve maintenant au lycée où tous sont plus grands qu'elle et, au mieux, l'ignorent. D'autres aiment s'amuser en l'enfermant ou en la mettant dans la poubelle. Combien de fois Sarah s'est-elle amusée?
En dehors ou dedans la poubelle?
Oh.
Je crois que même au lycée tout court.
Bah alors zéro aussi, hein.
Zéro.
Ouais, clairement, jamais.
Effectivement, bien joué, vous êtes bon, vous êtes doué.
Ouais.
Enzo est la star de son école, à tel point que même ses deux amis, Marie et Colline, viennent lui faire des bisous sans même lui demander s'il est d'accord. Mm-hmm. Enzo en parle à sa maîtresse, qui sourit et qui lui dit « Oh, rien n'est grave ». Combien y a-t-il de garçons dans ce court récit?
Dégueu, merde, j'ai pas écouté du
un.
Coup.
Un.
Un. Et enfin, avant-dernière question, combien de noms je vous ai cités durant tout ce quiz?
Oh, tu me retournes la tête.
4, 9, 5, 9, 7, 8. Moi, j'ai 8.
Il y en a 8.
Yeah.
Et donc, la toute dernière question. Je vous ai montré différents cas de harcèlement, que ce soit de la moquerie avec des surnoms, de la violence et même des cas de non-consentement. Ce genre d'acte, on l'a tous déjà vécu, vu ou fait subir à d'autres. On a tous été harceleurs ou harcelés sans le savoir peut-être. Quel numéro doit composer un jeune qui subirait ce genre de choses?
Le 30-20, ou si c'est du cyberharcèlement, le 30-18.
Et donc effectivement, chaque réponse précédente vous apporte un élément de réponse.
Oh, c'était
3-0-1-8, donc le 30-18.
Ah ouais. Malin.
Ce quiz, en fait, il n'avait rien de drôle, pas le fun habituel, mais pour avoir été en fait dans les deux camps, enfant, à la fois harceleur et harcelé, eh ben, je sais que le sujet, c'était pas à prendre à la légère. Et aujourd'hui, avec le cyberharcèlement et les impacts, bah, ils sont beaucoup plus importants. Et bah, je sais que ce sera peut-être un énième message de prévention, mais c'est à nous tous de faire attention et de faire en sorte que ces comportements cessent et que les jeunes bah, n'aient plus peur de la vie sociale en fait, dans les établissements.
Yes.
Super, merci
Lafken.
Tu déchires.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Je tiens à remercier tout le monde dans le studio, donc Alain, David, Lafken, Thomas et même Oxane.
Bon,
merci beaucoup à nos deux invités, Myriam et Marc.
Merci à vous.
Merci.
Et petite surprise, la prochaine de Bonjour Turbine, c'est mercredi 3 mai, en direct dans l'Orne, dans le tiers-lieu El Capitaine. Donc on part au vert.
El Capitane.
El Capitane,
oui, c'est ce que j'ai dit.
Mercredi 3 mai.
Ça marche. Au revoir et bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.